Et bienvenue sur Bagropoint pour Tosti, le Tosti numéro 9 cette semaine. Un Tosti 9 assez chargé, bon pas autant que celui de la semaine dernière qui était quand même assez, assez pléthorique. Je suis avec Atsal, bonsoir Atsal.
Bonsoir.
Et c'est vrai que nous, on enregistre le soir, voire même la nuit, donc désolé à ceux qui nous écoutent le matin. Donc c'est Tosti numéro 9, comme toutes les semaines, on va revenir sur les gros titres de l'actu de la semaine passée. On analysera quelques trucs qui méritent d'être analysés, qui font partie de l'actualité de la semaine dernière. Et enfin, on terminera, comme toutes les semaines, avec les tournois passés et à venir sur lesquels on a envie de parler. C'est donc Tosti, et puis on commence tout de suite avec l'actualité. Et la première actu qu'on a mis en avant cette semaine, c'est que ça y est, le changelog, la liste des changements finaux pour Arcade Edition, donc Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012, donc titre un peu rallonge, est sorti. Donc pour ceux qui voudraient la lire, elle est dispo sur le site, vous trouverez ça facilement. Alors un petit changelog qui amène quelques questions, parce qu'apparemment le changelog ne serait pas complet, c'est-à-dire que les gros points, les points les plus intéressants ont été mis dans la liste des changements, mais par contre certaines choses a priori selon certains joueurs n'auraient pas été mises dans la liste. Donc je sais pas si tu as suivi ça toi Hatsan, mais c'était assez lol quand
ouais
même.
C'est Kim1234 qui en parlait sur son compte Twitter et disait qu'il avait remarqué des trucs qui n'avaient pas été mentionnés sur Vega, enfin Dictateur, et parce qu'il me semble qu'il a gagné le premier tournoi japonais justement sur EU 2012, et il précisait qu'il avait remarqué des trucs qui n'étaient pas mentionnés. C'était pas les seuls, je crois que d'autres joueurs en avaient un peu parlé. Donc on attend d'avoir plus de retours, parce que les premiers tournois sont récents. Il y a eu le tournoi japonais, il y a eu notamment le premier tournoi américain qui se passait à Southern Arcade ce week-end. Je l'ai pas regardé, mais on vous le mettra dans la rubrique vidéo dès que Play Winner aura tout mis sur YouTube. Il me semble que c'est Ricky Ortiz qui a gagné, je vais pas dire de bêtises.
Mais ça a provoqué un petit débat en gros sur Twitter, parce qu'on avait entre autres les partisans du « il faut laisser du mystère et de la découverte dans le jeu » et les partisans du « on joue à un jeu compétitif, cette version n'est faite que pour la compétition, donc on devrait avoir accès à toutes les informations, c'est comme jouer à un jeu d'échecs sans avoir toutes les pièces nommées ou autres ». Donc ça a quand même pas mal débattu
cette semaine.
Ça a pas mal foutu.
Bon, après disons que le débat est un peu plus large, il y a tout un truc, c'est peut-être pas forcément le meilleur lieu pour en parler, mais il y a un énorme débat actuellement sur la place des jeux de combat au niveau de l'e-sport. Il y a eu une espèce de drama à la DreamHack, et puis ça a relancé un truc à savoir est-ce que les jeux de combat doivent être là-bas ou pas, entre les pros, les anti, les gens qui sont d'autres trucs.
Je propose qu'on rajoute ça là à l'impro dans la liste des analyses qu'on va faire tout à l'heure, comme ça on pourra détailler un petit peu. Allez, okay, hop, on change le programme en live de cette partie. Yeah. On va finir les news et on en reparle juste après. On reste sur du Capcom avec Street Fighter Cross Tekken qui a défrayé l'actualité pour deux raisons cette semaine. Alors la première raison, qui n'est pas vraiment une vraie raison, c'est que les deux mascottes de Sony au Japon, qui sont deux petits chats, un chat noir et un chat blanc, sont dans le jeu comme personnage bonus. Donc on était déjà au courant, on les avait déjà vus, on a eu une vidéo de démonstration avec deux pauvres mecs habillés en chat comme à Disneyland quand les gens sont habillés en Mickey.
Et il y avait un paquet d'autres persos qui étaient cosplayés. Enfin, il me semble qu'il avait déjà fait l'année dernière avec autre chose, c'était pendant un salon à Taïwan, alors je sais plus le nom du salon exactement, et ouais, ils ont présenté ça.
Ouais, voilà. Donc ils ont présenté les personnages. Alors pour ceux qui se demandent, c'est deux petits chats, donc vraiment très petits par rapport à la taille des personnages normaux Street Cross Tekken. Et en gros, ce sont des animation swaps, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a la move list de Ryu et l'autre qui a la move list de Kazuya. Donc voilà. Enfin, ça n'a pas grand intérêt en termes de gameplay. C'est juste pour le fun. Donc voilà. L'autre chose par contre qui, défraye un peu la chronique, c'est qu'apparemment, il y aurait un système de macro dans le jeu permettant d'enregistrer ses propres combos sur une combinaison de boutons. Donc apparemment, on pourra en faire deux et les activer avec Light Punch et High Kick, ou Light Kick et High Punch. Donc on n'en sait pas trop pour le moment, parce que c'est venu d'un screenshot de la future version donc console. Donc voilà.
Ouais, ça vient d'une des... c'était une des images du jeu ou c'était...
C'était une image du jeu,
c'était
en fait,
une des diapos qui étaient présentées là-bas. Je sais plus exactement.
Je, je, C'était une image du jeu qui a été mise, je crois, sur Capcom Unity, mais qui était en japonais, donc la plupart des gens ont pas relevé.
Non, non, il me semble que il me semble justement que ça venait de la présentation de Taïwan, c'est une des images qui a été montrée là-bas.
Ah bah ça doit être ça, dans ce cas,
ça vient peut-être. Et les gens commençaient à faire, ouais, et c'est pour ça que ça reste, rien n'a été encore confirmé, hein. C'est juste où les gens ont essayé de traduire, et ils se sont fait, attends, ça parle de macro, c'est quoi cette histoire?
Voilà, donc a priori, il y aura un système de macro, donc on verra ce que ça donne, comme ça. On reste un petit peu sur Capcom avec des drames sur Capcom, parce que Maximum Wesker est dans le coin, on vous en parlera tout à l'heure dans les analyses, notamment sur les premiers retours compétitifs de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Mais sachez qu'en gros, certains personnages sont quand même extrêmement forts, entre autres Wesker est très très fort, et apparemment, eh ben, Ryota Nitsuma a sous-entendu sur son Twitter, il y a quoi, un jour ou deux, qu'il y allait y avoir un patch de Ultimate Marvel vs Capcom 3 avant la fin de l'année.
Pas qu'un seul en fait, c'est-à-dire pas qu'un seul, c'est pour ça. On sait qu'il va y avoir un patch pour corriger tous les glitches et les bugs qui ont été trouvés, parce que là actuellement DS qui s'éclate avec les changements de dimension, je veux dire, il a trouvé des trucs mais complètement fumés, ouais. Tout le monde s'est fait, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à laisser ça dans le jeu?
Ouais, des trucs où en gros ça inverse l'axe de vision du jeu, résultat en fait les personnages sont deux faces au lieu d'être deux profils.
Mais ce truc a tellement marqué les journalistes que tu le retrouves sur un paquet de sites généralistes. J'ai trouvé ça sur Joystick, j'ai trouvé ça sur, je crois, sur G4 TV, les mecs ont halluciné quand ils ont vu ça.
Kotaku en a parlé aussi, ouais, c'était assez marrant.
Et par contre, donc oui, il y aura un truc où il y aura une correction de tout ça, tous des bugs et des quelques trucs. Et par exemple, à côté, ça serait pas forcément sûr que ce soit pour la fin d'année, mais ça pourrait arriver. Je veux dire, enfin, ce qui laisserait peut-être forcément un peu plus de temps et qu'on se mange pas un patch sans prévenir pour Sentinel qui se mange un gros nerf au niveau de sa barre de vie.
Ouais.
Et peut-être qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose. On en parlait tout à l'heure, il y a des personnages qui auront sûrement besoin d'un ajustement, ça paraît évident. Mais c'est peut-être pas plus mal que ça mette un petit peu plus de temps. C'est peut-être.
Ouais, donc on va voir, mais bon, c'est pas. Donc il y en a certains qui disent oui, mais il faut laisser le temps parce que voilà. Enfin bref, on en parle juste après concernant l'équilibrage de Marvel. On va passer à du Arc System Works avec notamment du Persona 4. Alors Persona 4 en ce moment est en lock test, était en lock test au Japon au moment où vous nous écoutez. Je crois qu'il est terminé au moment où le podcast est publié. Alors pas mal de retours sur le jeu. On n'a pas eu de retours vraiment très sérieux ou d'articles très posés. On a surtout eu des listes de coups, de changelog, d'avis sur les personnages. Et entre autres, on a eu droit à un article qui explique le système de comeback, un article dans Famitsu qui a été traduit ensuite par je ne sais plus quel site, ça doit être Andrea Sang, qui explique en fait quel est le système de comeback du jeu. Parce qu'actuellement, bon, c'est un peu la règle en ce moment de mettre des mécaniques de comeback un peu pétées sur les jeux. Alors pour vous expliquer simplement, pour les fans de Persona, ça vous parlera probablement plus qu'à moi. En gros, quand on atteint un certain seuil de vie, donc on n'a plus beaucoup de vie, on passe en mode Awakening, donc on est réveillé, donc je suppose que ça fait référence au jeu. Et en gros, en mode Awakening, on gagne instantanément 50% de barre de super et on débloque une espèce d'attaque ultime. Donc chaque attaque ultime est propre à chaque personnage, donc certains ont des attaques de glace, de foot, certains vont plus vite, certains donnent des gros coups qui stun, enfin voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, ça peut être extrêmement pété, comme ça peut être juste anecdotique ou autre. Ça peut être un petit bonus, genre place un dernier combo et à la fin t'auras une furie sans damage reduce. Ça pourrait être un truc comme ça qui serait très bien. Donc on verra, dès qu'on aura un peu plus d'infos, on verra. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de Persona, je vous invite à lire la news sur Bagro Point, parce que ils ont détaillé le coup, enfin la mécanique, enfin le coup pour chaque personnage. Donc je pense qu'il doit y avoir des références au jeu que moi je n'ai pas noté, étant donné que je ne connais pas le jeu.
Faites un tour sur le forum de Deathloop, il y a des informations qu'on n'a pas eu le temps de traduire. Je sais pas si on aura le temps, de toute manière.
Je sais pas, on va essayer de vous faire un gros post de récap, même en anglais, mais on
avec
essaiera
tous
de
les,
faire
un... Avec tous les retours, ils ont essayé de traduire certains blogs de joueurs japonais avec ce qu'ils ont pu voir. Il y a des gens qui ont traduit, tu sais, les flyers qu'on passe à chaque fois pendant les log tests avec les trucs qui ont été ajoutés ou les coûts, ça, les propriétés. Donc ils ont commencé à traduire ça. J'ai vraiment pas eu le temps de voir, donc je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dedans. Donc
j'ai énormément manqué de temps aussi, donc on va voir. On va essayer de vous faire un petit post de récap, au moins des infos, comme ça vous pourrez aller les lire sur les sites respectifs. On reste sur Arxis avec BlazBlue CS Extend, qui a enfin une date approximative pour l'Europe. Donc le jeu sortira dans le premier quart 2012 chez nous. Donc on rappelle que BlazBlue CS Extend est une version rééquilibrée, encore une fois, de BlazBlue CS2, qui comportera tous les persos DLC plus Relius Clover en bonus comme personnage. Apparemment, il y a eu des modifications sur le mode online, genre plus d'options, parce qu'ils n'ont pas pu le mettre à jour justement à cause du mode online. Ils n'ont pas pu passer par un patch de rééquilibrage ou d'ajout à cause de ça. Donc bah écoutez, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus d'infos, mais bon, personnellement je ne suis pas très très emballé, parce que ça commence à faire beaucoup de versions de BlazBlue qui se succèdent en très très peu de temps. Et j'ai encore un petit peu, je pense que Laurent, si tu m'écoutes, je pense qu'on l'a un peu profond tous les deux d'avoir pris à deux les persos DLC un mois avant l'annonce de BlazBlue CS Extend.
Voilà. C'est vrai que c'est le point qui fait gueuler beaucoup de gens, parce qu'autant où Capcom a quand même permis aux gens qui avaient, tu sais, il y a ce truc où les persos DLC sont pas dedans dans Ultimate, ouais. Alors que là ils sont ajoutés dedans, donc c'est vrai que ça c'est un point qui passe très mal.
Bah en fait, en même temps, je comprends les gens, parce que là, tu vois, je les ai achetés, je suis dégoûté qu'ils soient dans le jeu, je suis là, mais nom de Dieu, mon ego, faites-moi du bien, enlevez-les et tout. Et en même temps, si j'avais pas acheté les machins, je serais là, putain, mais mettez-les, t'as de radins et tout, vous êtes trop des radasses. Donc je vais pas me plaindre, hein, c'est mieux, parce voilà. Qu'en plus, après, pour tous les gens qui vont organiser des tournois, pour les gens qui organiseront des tournois, en plus, tu mettras le disque, il y aura tous les persos, ça va simplifier la vie, mais un truc bien, quoi.
Ouais. Bah d'ailleurs, en parlant de simplification avec des DLC, ça fait une très bonne transition avec la prétendue Mortal Kombat Complete Edition.
Ah oui,
qui maintenant paraît être sûre et certaine, parce que donc c'est le British Board of je crois que c'est Film Classification qui l'a trouvé. Alors pour rappel, si vous vous en souvenez, c'est les mecs qui avaient confirmé la sortie disque de AE.
Exact.
Donc avec ça, ça paraît sûr, c'est sûr et d'accord. Certain, donc on sait pas encore ce qu'il y a dedans. On suppose qu'il y aura tous les persos DLC, voire peut-être d'autres choses, qui sait.
Ce serait bien, et c'est dans cette version aussi qu'on va très certainement avoir la correction de pas mal de bugs qui gênent le jeu actuellement.
Enfin, si c'est le cas, ça serait bien. Hein. Ça serait bien. J'avoue qu'il me ferait même racheter la version s'ils font pas un patch à côté, ces enfoirés.
Moi, je t'avoue, comme ça, là, je ne ferais pas racheter quand même, parce que j'aime bien Mortal Kombat, mais pas au point de... Enfin, les bugs ne me gênent pas actuellement. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours pas mis à jour mon Mortal Kombat. Je suis toujours enfin, sur la
bugs,
version.
Je pense
1.
Que les bugs gênent surtout les gens qui essaient de pousser un peu le jeu. Parce que quand
voilà,
le,
c'est ça.
C'est vrai que rien que l'input drop fait vraiment chier. Parce que même à un niveau où tu joues pas vraiment à un niveau compétitif et ça, il y a des fois tu loupes des combos sans savoir pourquoi. Ça arrive une fois l'an 4, mais ça t'arrive quand ça te fait chier.
Bon, bref, donc on va passer maintenant plutôt à du Namco. Alors, info intéressante.
Attends, on avait un autre sur MK.
Ah oui, pardon, MK Arcade Collection.
Voilà, alors, vas-y, on vous en avait parlé la dernière fois, on était censé avoir un patch pour Thanksgiving, et malheureusement, pour NRS, il aurait arrivé le même souci que pas mal de gens qui passent par les plateformes de téléchargement, c'est que le passage par Sony et Microsoft prend plus de temps que prévu, et le patch est censé sortir cette semaine.
Et donc ah.
Voilà, donc ben c'était juste ça, c'est-à-dire que le patch met un peu de temps parce que ben il faut que à chaque fois il faut qu'ils aient l'accord, tu sais, l'accréditation, que les mecs font OK, c'est bon, vous pouvez le sortir, le patch il est valide, on l'accepte. Et si on continue donc dans le sujet, il y avait une version PC qui avait été annoncée à l'époque
de Mortal Kombat Arcade voilà. Collection. Hein,
mais il y a eu un souci dans le communiqué de presse, et pas mal de gens l'ont pas compris de la bonne façon. C'est-à-dire que effectivement, il y aura une version PC. Mais elle n'était pas prévue pour sortir en même temps que les versions consoles. Donc elle arrivera, mais on ne sait pas quand.
D'accord. Bon, bah écoute, hein, quand elle arrivera, elle arrivera. On peut passer à Namco maintenant ?
Vas-y, on peut passer sur Namco.
Ouais, alors on passe sur Namco. Alors, on vous a parlé longuement et plusieurs fois, je crois, sur le site de Tekken Tag 2 et du fait que Katsuhiro Arada, donc le papa de la série, refuse de vendre des bornes et des jeux de Tekken Tag 2 arcade. S'ils ne sont pas connectés à internet et donc ne profitent pas des features online qui sont dans le jeu. Alors grande nouvelle, actuellement des log tests réseau sont en train d'être effectués aux États-Unis sur plus dans plusieurs salles d'arcade. Alors j'ai pas la liste complète, mais je crois que ça va de l'est d'est en ouest. Hein.
C'est un peu ça en gros. Il y avait quasiment toutes les salles auxquelles on s'attendait plus une. Donc il y a celle où du moins on n'était pas sûr, mais c'est la première qui a donné des informations. C'est Funworks, c'est une salle qui est à Hawaï. Donc les mecs, c'est eux qui est première fois à dire ouais, on a des mecs de même coup qui sont passés avec des mallettes, ils sont venus faire des tests réseau. Donc il y aura cette salle et normalement, je crois que le test avait lieu justement avant-hier. Donc on n'a pas eu trop d'infos. Ensuite, là où ça va être intéressant, c'est on est en Californie, on a Super Arcade et on a Round One. Donc c'est les salles avec des mecs avec des gros joueurs de Tekken. Parce qu'actuellement il y a Harris qui bosse pour Mike Watson à Super Arcade et Round One est géré par comment il s'appelle
Par Fubardek.
Non. Round One est géré par le meilleur joueur de l'AI ou putain c'est la côte ouest. Comment il s'appelle déjà? Sweeken.
D'accord.
Donc il y a ça. Ensuite donc il y aura Arcade UFO qui est justement géré par Fubardock au Texas. Mm-hmm. Et la dernière qui était prévue c'était Next Level, donc la salle d'Andreessen à New York. Et le souci c'est que ce log test va être a été annulé. Parce que je crois qu'ils ont un problème de compatibilité avec les bornes.
Ah merde, ça c'est moche ça.
Ah ça fait chier, ouais, parce qu'ils ont vraiment de bons joueurs en plus aussi à New York qui auraient pu faire le taf. Hein.
Ok, d'accord. Donc voilà, on rappelle aussi, on a oublié d'en parler sur le site, mais Tekken Hybrid est sorti.
On a oublié de vous en parler.
Mais donc Tekken Hybrid est sorti, c'est le Blu-ray qui comprend le film Tekken Blood Vengeance qui, a priori, de ce qu'on en a entendu, n'est pas exceptionnel, ça se regarde quoi, mais bon, on n'a pas encore eu de test comparatif entre le film live et le film 3D, j'attends avec impatience. Et ensuite, on a dit, dedans il y a Tekken Blood Vengeance, il y a la démo technique de Tekken Tag Tournament 2, donc Tekken Tag Tournament 2 Prologue, et Tekken Tag Tournament premier du nom en HD. Si jamais vous avez des sous à perdre pour un film très japonais, une démo et une réédition, c'est le moment de passer à la caisse. Sachez sinon que je crois que Blood Vengeance est dispo en DVD. On termine Namco avec avec du Soul Calibur, bien sûr. Pourquoi on parlerait pas de Soul Calibur, hein.
Eh oui.
Alors tu as marqué sur notre feuille commune qui nous sert de communication inter-internet, second stream Soul 5. Alors ça veut dire quoi second stream?
Alors, je t'avais parlé la dernière fois que Namco avait prévu de faire un second stream explicatif sur Soul Calibur 5 après la réussite du tout premier. Parce qu'ils m'ont fait un premier qui, même si tu ne parlais pas japonais, était très intéressant. Et donc, en gros, ce week-end, le week-end dernier, il y avait le NEC à Philadelphie et il y avait la présence donc de Daichi. Et je crois que l'autre mec s'appelle comment? Je crois qu'il s'appelle Kato, je veux pas dire de bêtises. C'est qui est game designer et en plus qui parle très très bien anglais. Donc, c'est lui qui servait de. Pour la communication avec les joueurs, notamment, il a été très longuement sur le stream de Eightway Run. À parler à chaque fois qu'il y avait du Soul Calibur 5 et que les joueurs s'y testaient, qu'il y avait des exhibitions et des démonstrations. Et donc, ils ont expliqué qu'il va y avoir un deuxième stream qui va se faire courant décembre. Et notamment, on va voir les 4 derniers personnages confirmés.
Ah, bien ça!
Parce que le peu qu'on avait pu en voir de ces persos, c'était pendant le Tokyo Game Night qui s'était passé, je sais plus, c'était un week-end, je sais plus quel week-end exactement. Et on avait pu voir au milieu, mais alors fallait vraiment, t'avais 14 heures de vidéo à te taper, donc il fallait tomber dessus. Il y avait un passage où ils avaient passé le trailer qu'on sera censé voir, je crois, de ces personnages-là. Alors la qualité était immonde, c'était vraiment difficile à voir. Donc là, ça sera l'occasion d'en voir plus. Et peut-être qu'on aura en plus d'autres persos qui seront là d'ici là. Parce que quand même le jeu, je veux dire, si on est courant décembre, le jeu est censé sortir quasiment un mois après, quoi.
Ouais, donc ça va être
c'est bientôt, donc il y a de fortes chances qu'on ait pas mal de persos qui viennent sortir. D'ailleurs, en parlant de Soul Calibur 5, il y a une question assez intéressante qui avait été posée par un des joueurs américains, je me rappelle pas de tous les noms, qui leur avait demandé justement pour les soucis des compétiteurs, est-ce que tous les persos seront débloqués dès le départ. Et ça sera une question, je crois, liée au niveau du scénario. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, les mecs sont pas encore très stabilisés pour tout ce qui est question de scénar. Et il y a peut-être des persos qui vont vouloir volontairement rester cachés, qu'il faudrait débloquer à partir d'un moment. C'est exactement ce qui se fait dans Mortal Kombat, ou même ce qui se faisait historiquement avant dans certains trucs sur Soul Calibur. C'est-à-dire qu'il y aurait des persos où il faudra jouer Tender. Et tu sais, c'est encore la question pour les organisateurs de tournoi, où les mecs doivent se dire, putain, j'ai 10 consoles, il faut que tu arrives à débloquer les persos.
Ça va être marrant, ça va être funky. Oh yeah! Bon, allez, on termine avec deux news. Une news matos et une news le jeu incroyable dont vous n'avez jamais entendu parler, mais on vous en parle quand même. Parce que cette semaine, on n'a pas de news sur Death Cargo, ni sur My Little Pony, ni sur je ne sais quoi.
Ni sur des petits Dojin, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais je pense qu'il y a peut-être eu des trucs sur le Dojin, mais on manque de temps en ce moment, donc excusez-nous.
Alors, le premier, c'est que Joytron, que vous connaissez probablement pas, qui est une marque coréenne qui a inventé, qui a travaillé avec Dattel pour faire un palette swap, on va dire ça comme ça, du Dattel à une époque. Et entre autres, je crois qu'il est un de ceux qui ont été les premiers à proposer le fameux PCB Dattel qui permet de jouer aussi bien sur Xbox que sur PS3. Et bien donc ces gens-là à Joytron se sont dit pourquoi nous on fait pas aussi un stick haut de gamme avec du Sanwa dedans ou autre. Donc ils se lancent, ils font un stick plutôt bien foutu a priori. Bon, ça a l'air un peu plastoc par contre, c'est un peu bizarre.
Ouais, ça compare aux autres, ça paraît plastoc.
Ça fait un peu plastoc en photo, donc on verra. Mais en gros, le principe, donc je vous le fais vite fait, hein, option de base à base de turbo, de machin, de bidule, comme d'habitude sur les TE ou les autres. Chose intéressante, on peut ouvrir le stick via un bouton comme le futur stick Razer, c'est ça, qu'on n'est pas encore sorti. Et autre chose intéressante, et je pense que c'est là qui est le plus intéressant et que ça va intéresser beaucoup de nos lecteurs, notamment les gens de Tekken, c'est que le stick est proposé en deux modèles, donc toujours en bouton Sanwa. Par contre, on peut avoir soit un stick JLF Sanwa de base, soit un stick Fanta, le Fanta joystick qui est utilisé notamment par pas mal de compétiteurs coréens sur Tekken et entre autres par Punko.
Mais il me semble que les bornes du Tekken Crash sont équipées avec ce genre de poire. C'est une poire beaucoup plus lourde.
C'est une sorte de stick dont la base ressort en fait, elle n'est pas cachée en dessous. C'est une poire et apparemment c'est pas un truc à ressort en fait. C'est un espèce de truc avec un caoutchouc qui fait que c'est plus dur de trouver les angles.
C'est particulier. Ah. Les joueurs de Tekken sont fans de ça. Hein. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est particulier.
Donc voilà. Donc on ne sait pas encore s'il sera dispo aux États-Unis, en Europe, etc. Mais bon, on vous tiendra au courant. Donc peut-être que je ne sais pas, on pourra aussi devenir revendeur Joytron et vendre des sticks Fanta.
Peut-être. Ça serait pas mal. Hein. Le fait de pouvoir déjà d'avoir du matos du coréen, parce que là, avec l'actualité Tekken qui va être de plus en plus importante, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment jouer ce genre de matériel. Ça serait cool. Maintenant, c'est sûr de se dire qu'on peut avoir du Sanwa de bonne qualité dans pas mal de marques différentes. Pourquoi pas maintenant que ça soit pour les un peu de diversité, tout ce qui est matériel coréen.
Voilà. Donc on termine avec notre news et notre jeu de la semaine, qu'il est totalement improbable, mais qu'on va essayer quand même de vous en parler un peu plus régulièrement. C'est Xuanduzin Wang. Alors, je vais essayer de leur dire en chinois, Xuanduzin Wang, c'est ça ?
J'ai une prononciation chinoise à chier.
On aurait vraiment dû inviter le chef de eLife, qui est chinois et texan en même temps. Il aurait pu nous faire un truc.
Nous en parler. Bon, c'est un truc qu'on aurait dû en parler il y a déjà, je crois, facilement deux semaines. Ça fait deux semaines, je crois, que j'ai uploadé les vidéos sur le compte YouTube.
Oui, ils sont sur le compte.
Et qu'on les a toujours pas foutus dessus. Ça vous laisse imaginer quel point on fonctionne au radar en ce moment.
Donc, c'est quoi Xuanduzin Wang?
Donc on va pas se cacher, hein, c'est un rip-off de KOF fait par un studio chinois, je crois qu'il s'appelle Tencent.
Mais c'est pas un petit studio, hein, c'est une grosse boîte.
Oui, je me sens que c'est une grosse boîte, c'est ce que nous avait dit justement notre super PDG chinois d'eLive. Il nous a dit que c'est une grosse boîte, donc c'est... après, comment dire ?
On va vous conseiller d'aller sur le site voir la news correspondante à ce truc. Mais en gros, c'est quand même moins rip-off, parce que je crois que le jeu le plus rip-off que j'ai vu ces derniers temps, c'est quand même
Chaos Code.
Chaos Code est quand même vachement plus rip-off que Xuanduzin Wang.
Non, la différence, c'est quand même que Chaos Code, c'est quand même un mélange entre plusieurs licences. Là, tu sens vraiment que c'est de la pompe pure et dure de coffre. Et que les mecs, en plus, dans la vidéo d'intro, il y a des passages, c'est plan pour plan, la séquence d'introduction de Street Fighter 4. Je veux dire, ça déconne.
Vous voyez là, dans Street Fighter 4, le moment où il y a Ryu et Ken, ils se frappent, en fait, et leurs deux poings se rencontrent, et il y a la caméra qui passe sous les poings pour montrer à quel point ils ont des gros muscles. Après, il y a la caméra sur le visage de Ryu, la caméra sur le visage de Ken, et ils se redonnent un coup dans la gueule. Bah, il y a le même plan, exactement le même, mais avec deux personnes différentes, chinois, moches. C'est dégueulasse comme vidéo. En plus, l'intro, elle est dégueulasse. qui se battent dans la Danger Room de MVC3.
Mais t'as d'autres trucs. Regarde, je crois que t'as un perso, je sais pas lequel c'est. T'as l'impression d'avoir des coups qui sont pompés directement sur Freeman de Mark of the Wolves. T'as des trucs, on dirait des coups de Vice. Il y a un perso, on dirait Léona en homme. Ils ont complètement pompé Athéna, qu'ils ont essayé de faire d'une autre manière. Enfin, c'est
génial, mais le jeu a l'air super sympa à jouer. Hein. Franchement, ça a l'air.
On arrive à se le procurer celui-là. J'ai vraiment envie de le tester.
On va essayer. Si on arrive à se le procurer, attends, on vous fera une démo à la World Game Cup. C'est promis. Voilà, donc on va essayer. Et ben voilà, c'était. On a fait du temps dessus là. Les news de la semaine les news de la semaine dernière. Alors on va passer à nos analyses. Putain, ça fait déjà 25 minutes qu'on discute, mon cher Hatsal, c'est quand même pas mal. Alors on va parler de trois choses. Alors la première, c'est que on va commencer par celle que tu préfères. On peut parler soit des problèmes d'équilibrage de Marvel versus Capcom 3, soit comme on l'a dit tout à l'heure, des problèmes des jeux de baston avec les ligues d'e-sport aux États-Unis. Soit on peut parler du fait que j'ai vu Skullgirls à Paris vendredi dernier et que c'était fort bien. Alors à toi de choisir.
On peut commencer par Skullgirls si tu veux.
Bah écoute, allons-y alors. Donc oui, vendredi dernier, on était invité à voir Skullgirls donc à Paris. Le community manager, donc Peter Bartolo, que vous avez déjà vu en interview sur le site, était de passage en Europe. Il a fait 2-3 jours en Angleterre, 2-3 jours en France, 2-3 jours en Allemagne, si j'ai bien compris. Et que dire que on y a été avec Sly, avec Valentin, avec Asenka, et je crois qu'il y a Cénul aussi, c'est Cénul de qui est venu pour Hit Combo, et Bachaka était malade donc il a pas pu venir voir le jeu, c'était dommage. Et on a dosé, on a pu voir des persos que vous n'avez pas vu encore et qu'on n'a pas le droit de vous montrer des vidéos. Entre autres personnages qu'on a vu, il y avait Valentine, donc le dernier perso, le sous-boss qui était révélé, qui était là, qui était jouable. On a aussi pu jouer Penwheel, on a pu jouer Miss Fortune. Le jeu était dans un stade beaucoup plus avancé que ce qu'on a vu à la Gamescom, parce qu'à la Gamescom, il n'y avait même pas de menu, il n'y avait pas de tutorio, il n'y avait pas de machin, donc voilà. Et donc en gros, je sais pas trop quoi dire d'autre. Le jeu est super bon. Donc si t'as des questions, Atsal, c'est le moment.
Oui, j'ai une question toute bête. Est-ce que Peter a pu te dire si oui ou non on aura Vénus d'une manière ou d'une autre dans le jeu?
Non, parce que Vénus, il me semble, est dans un des stages qui est dans le jeu. Donc il nous a dit qu'en fait, dans les stages du jeu, il y avait énormément en fait de caméos de persos possibles en DLC. Entre autres, il y a Saxophone Man, il y a Vénus qui est dedans, il y a un ou deux autres persos. Et on a bien rigolé aussi parce que dans un coin d'un stage, il y a Old Ryu, ils ont mis un Ryu avec son bandeau et son pyjama pourri, une barbe, et à la place de son sac, tu sais, le fameux sac qu'il a dans 3-3 qui pose et tout dans le stage et tout comme ça, et il y avait, comment il s'appelle, je crois que c'est Bonus Kun, tu sais, le punching ball avec un bandeau qu'il y a dans, je crois que c'est dans Waku Waku 7
là, l'espèce voilà. De bout donc, de, en fait, de tofu, d'accord. Ouais. Voilà.
Donc il y a ces deux bonhommes là dans le coin d'un stage, donc il y a énormément de caméos dans le stage, je vais te dire. C'était les gens, donc entre autres ceux qui n'avaient pas encore vu le jeu, il y avait Valentin, Sly et Asenka, ils regardaient le jeu, ils étaient là, mais c'est incroyable comment les gens ont dû fumer de la drogue pour mettre les trucs dans le jeu. Donc on a vraiment beaucoup rigolé en y jouant. Donc Vénus, donc je ne sais pas, on verra dans le futur peut-être. Voilà quoi.
Donc tu peux pas encore parler, je crois, du gameplay des persos, non?
C'est bien sûr que si, puisque le NDA tombe le mercredi, et comme par hasard, on met hostile mercredi.
Parle un petit peu de Valentine, est-ce qu'elle peut faire exploser des cadavres?
Alors, en gros, Valentine, la version qu'on a eue, ils ont mis à jour, en plus, on est arrivé, on a commencé à jouer, ils ont reçu une build plus avancée pendant qu'on jouait, qu'ils ont chargée sur la console rien que pour nous. Donc Valentine, en fait, n'était pas fini. Clairement, le personnage n'était pas encore terminé. Il y avait tous les normaux qui étaient là, mais il n'y avait pas de couleurs différentes. Il n'y avait qu'une seule Fury qui fonctionnait et les mécaniques complexes n'étaient pas encore mises. Alors, le personnage est clairement un ninja, parce qu'on se disait, moi je voyais Valentine, on me disait c'est une infirmière ninja. Je m'étais dit, mais comment ils vont faire une infirmière ninja, c'est con. Et en fait, elle a exactement la même pose en termes de physique, tu vois, que celle de Mai dans King of Fighters, aussi bien les anciens que le nouveau, ou même que la petite fille ninja dans Arcane Heart, dont j'ai oublié le nom. Donc tu sais, cette espèce de pose un peu de face, avec les jambes qui font un V inversé, tu sais, avec les genoux vers l'intérieur, et le buste penché qui dévoile une poitrine, mais comment il a dit, je crois que Valentin, il a mis Valentine, il a commencé à jouer, on a vu le sprite, et il y a Valentin qui a fait « Oh, huge cleavage !» Comme ça, donc en fait, le perso, vraiment, la stand pose, c'est clairement une référence à Mai, donc un peu moins Bouncy au niveau des boobs, mais des plus gros boobs encore, donc pour te donner une idée, c'était assez effrayant. En plus, pareil, donc elle court comme une ninja, c'est-à-dire, tu sais, un petit peu avec donc les bras dans le dos et tout, et court assez rapidement. Son dash aérien ressemble à celui de Super Skrull dans MVC3, c'est-à-dire que c'est un dash vers l'avant, mais qui monte un peu.
Qui monte un peu, d'accord.
Son dash arrière est l'équivalent d'un dash arrière... En fait, c'est même au sol et en l'air, c'est un petit bond vers l'arrière dans lequel elle se roule en boule et elle ne touche pas le sol quand elle est au sol en train de faire son backdash. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre sinon ? Alors, tous ces normaux sont un peu inégaux dans le sens où ces lights vont pas très loin, vont vite mais pas loin. Je crois que ces médiums, la plupart étaient multi-hit, surtout ceux en l'air. Et ces forts, en fait, par contre, sont des putains de gros coups et tu vas être content, Hatsal, parce que tu avais remarqué dans l'artwork qu'il y avait un sac... comment on dit, un sac pour mettre les cadavres, là, un sac noir dans lequel on met des cadavres. Et donc, quand tu fais HK en l'air avec Valentine, elle sort un sac avec un cadavre dedans et elle donne un coup de pied dans le dos du cadavre. Et donc, le cadavre t'attaque avec ses bras et ses jambes. Enfin, bref, c'est assez... donc, le perso est super fun. En termes de mécanique qui n'était pas implémentée, on a appris qu'elle avait des poisons. Elle pouvait utiliser certains poisons. Alors, contrairement à certains poisons qu'on trouve dans plusieurs jeux, ici, on va plutôt aller vers des poisons et des buffs ou des trucs qui font chier le joueur, qui se rapprochent plus de Bacon dans Guilty Gear, en fait, que du poison normal. Parce qu'en gros, on lui fait, mais il y aura quoi comme poison, etc. Il fait, en fait, ça va pas juste être un poison qui t'empoisonne et tu perds de la vie. On nous a parlé, j'ai peut-être mal compris, mais on nous a parlé d'un poison qui fait que le personnage touché par le poison a plus de frames de recovery sur ses coups.
D'accord.
Donc, t'imagines bien que ça va être porciné comme truc.
J'avoue.
Ça. Donc, le poison, en fait, tu peux pas l'envoyer directement. C'est-à-dire que Valentine, on a vu déjà une image où elle est en train de. Elle a un petit flacon avec quelque chose dedans et en fait, elle met une seringue dedans et elle tire du poison. Donc, pour utiliser les poisons, en fait, il va falloir d'abord mettre le poison dans les seringues. Donc en gros, tu es obligé de préparer ta seringue de poison avant de pouvoir la lancer.
D'accord.
Et en termes de furie, il n'y en avait qu'une qui était implémentée. C'était une furie shuriken, bon, seringue, là pour le coup, où elle balance tout un tas de seringues comme plusieurs furies ninja balancent des shurikens. Et on nous a bien entendu signalé qu'il se pourrait fortement que Valentine ait les cadavres sur le sol, et voilà quoi, ce soit très utile en fait de mettre Valentine à la fin pour ressusciter des cadavres et s'en servir pour attaquer quoi. Donc voilà, donc le perso est assez bizarre parce qu'en fait je m'attendais, quand on a dit ninja, je m'attendais à un perso super speed à la Chibza 9, tu vois, et en fait le perso est plus lent, on va dire, c'est pas non plus lent comme Bang dans BlazBlue, que BlazBlue, enfin Bang pour moi c'est le ninja tu sais, qui a des TP, qui a des trucs et tout. Valentine elle a pas de téléportation en fait. Juste, elle se déplace assez vite, elle a un bon run, elle a un bon dash aérien, elle a des bons normaux qui font cross-up et tout. Elle a des projectiles n'importe quand, n'importe où. Par contre, j'ai pas l'impression, enfin, ça va être un perso de rush et un perso tricky, mais j'ai l'impression que ça va plus être un perso pour te faire chier. Tu vois, genre vraiment être chiant, hein, et une fois qu'on t'a bien foutu, fait chier, eh ben, tu rushes la gueule assez facilement, quoi. Donc voilà. Et donc l'autre perso auquel on a pu jouer, c'est Painwheel. Et Painwheel, elle est super bien. Donc je sais pas si t'as des questions sur le perso comme ça, mais...
Painwheel, c'est vraiment ce qu'ils expliquaient, à dire que c'était une sorte de Sentinel passé sur Skullgirls, parce que ça avait l'air d'être le type de perso high risk, high reward.
Eh ben, c'est vraiment ça en fait, parce que quand tu le joues le perso, tu sens qu'il y a une espèce de deux facettes en fait du perso. C'est-à-dire que quand tu le joues, t'es vraiment en mode putain, les normaux ils sortent super lentement. En plus, comme les coups peuvent se charger, il suffit que t'aies le malheur de rester un peu appuyé sur un coup pour qu'il se charge. Donc, et à côté de ça, à chaque fois que le perso frappe, aussi bien dans la garde que en hit, le perso a très peu souvent de recul sur ses coups, même en garde, si tu veux. Donc il y a le push block, mais comme beaucoup de coups avec son hélice sont multi, tu peux, si la personne ne push block pas le bon coup, tu peux te faire prendre dans le reste de ce que tu peux te faire avoir dans le push block en fait, dans ce jeu là c'est à dire que le push block a certaines frames d'animation et si un coup qui arrive après, voilà. Donc en gros, Painwheel, la sensation que t'as en la jouant, c'est que le perso est pas super mobile et pas super facile à jouer, que ses coups sortent vraiment trop lentement. Par contre, quand ça sort, tu vois. C'est vraiment bourrin, quoi. En termes de feeling de jeu, t'as vraiment l'impression de jouer un lourdeau, mais que quand le coup sort, genre les coups d'hélice et tout, quand ils arrivent dans la gueule, ça fait vraiment mal.
D'accord.
Donc, ouais, je pense que ça va être vraiment risk high reward, et je pense que ça va être aussi un des persos les plus complexes à jouer. Parce que le flight mode est pratique, parce qu'on peut rester de manière illimitée en l'air, donc c'est super. Mais je crois qu'en fait, en termes de combo, ça va être très difficile, donc il va falloir réussir à jouer sur les resets. Je pense qu'il va falloir aussi réussir à provoquer le counter hit, à provoquer la faute, parce que comme tu peux charger la plupart des coups du personnage, qui deviennent alors autogardes et qui renvoient les dégâts sur le personnage qui les a infligés, t'imagine bien que ça va être une mécanique assez complexe. Donc je pense que le perso va être vraiment être un des plus complexes à jouer, mais ça va être très intéressant. Il est agréable à jouer.
Et j'avais une question à te poser justement, c'est quand ils sont présentés le jeu à WNF, ils avaient mis en avant quelque chose. Est-ce que vous avez réussi à faire quelques combos à base de avec du flight cancel plusieurs fois à l'intérieur et pour voir à quelle vitesse on pouvait se retrouver dans une phase d'infini?
Non, on n'a pas fait parce que tout simplement on a joué, on était dans une présentation de 2h30 à peine. Et donc en gros, vu qu'on a fait le tour de. En fait, je crois qu'on a tous quasiment plus joué avec Valentine qu'avec Painwheel. Donc je crois que c'est peut-être le Huge Cleavage qui a fait ça. Mais en gros, Painwheel, j'ai essayé un moment de faire du flight cancel, si tu veux, et le flight cancel se fait très facilement. Le flight se met en marche avec un quart arrière plus n'importe quel bouton de pied. Donc tu vois, ça va assez vite. Mais je sais pas, à un moment j'ai essayé voir si on pouvait dasher en l'air, et tu peux pas dasher en l'air. À la base, j'ai voulu essayer de reproduire un petit peu un délire à la Magneto où tu fais faible, moyen, tu fais un dash faible, moyen, t'envoies le flight cancel un truc. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc j'en ai pas eu trop le temps d'essayer. Je crois qu'on a vu une ou deux personnes, je sais plus qui a réussi à en faire un ou deux, mais c'est vraiment très compliqué, quoi. C'est pas évident, quoi. Et les combos normaux que tu commences au sol et tout avec des jumps et tout comme ça passe, mais c'est difficile aussi, quoi.
Parce qu'ils expliquaient justement que par rapport au fait que le moteur, enfin le jeu en lui-même vienne à détecter les infinis, si tu viens à commencer à faire un combo où tu places plusieurs fois des flight cancel à l'intérieur, le jeu en fait va repérer l'infini beaucoup plus vite et tu peux te manger un burst peut-être beaucoup plus vite que si tu avais fait un combo traditionnel.
Ah, parce que le flight cancel s'insère dans le loop au milieu, donc voilà. Ça aide à détecter. Donc voilà, pour le reste, le jeu est encore une fois super beau, les décors étaient beaucoup plus avancés. Le menu est en mode, le menu est designé en fait comme étant, tu sais, très art déco, très couleur bronze et tout comme ça, donc c'est assez joli. On a vu un tutoriel où il fallait apprendre à bloquer et à sauter. Carrément, genre parasol qui t'envoie des projectiles, faut sauter par-dessus comme ça. Donc vraiment, il y a de base en termes de tutoriel. Et puis plein de petits trucs donc qu'on connaît déjà, mais qui font plaisir à tester. Le bouton start qu'il faut rester enfoncé pour l'activer. Le système des couleurs des personnages où quand tu appuies sur start, t'as l'ensemble de tes couleurs dans une liste et ça t'affiche en même temps que les couleurs en fait sur le sprite du personnage, pour que tu vois le résultat. Ça t'affiche aussi la combinaison de boutons pour re-avoir cette couleur sans repasser par le menu start. Donc plein de petits trucs comme ça où tu te dis ah ouais, en fait c'est vraiment bien. Et surtout, comme on l'a déjà dit plein de fois, le jeu est super joli, il est super agréable à jouer. Valentin trouvait que ça manquait d'impact sur certains coups, surtout sur les personnages type Rushdown, type Philia, Miss Fortune ou autre, c'est vrai que t'as la sensation que les personnages frappent pas très fort. En même temps, les personnages ne frappent pas vraiment fort. Et quand tu prends Pain Wheel, par contre, et que tu frappes, même en voulant pas frapper fort, tu sens là, par contre, l'impact, tu vois. Donc, je pense que c'est délibéré comme truc. Et pour le reste, le jeu est fun, le jeu est beau. Ce que j'ai essayé de faire, moi, quand on a commencé à vraiment doser, je me suis fait une team Peacock Cerebella Philia. En mode grosse pute campouse à l'autre bout de l'écran avec Peacock, téléporte, avion, bombe, stand à HK, etc. comme une pute. Philia avec le dragon pour couvrir l'angle, tu sais, la diagonale juste au-dessus de la tête de Peacock. Et je crois que je jouais contre Cénul et le pauvre, putain, chaque fois que je m'approchais de lui, je faisais TP. Et pendant que je faisais la TP ou que je sortais du moment de la TP, en fait, j'appelais Cerebella et je lui avais mis l'assist 360. Parce qu'on commence à faire des custom assists. Et donc, en gros, même quand il me rushait en fait et que j'étais coincé dans le coin sans pouvoir sortir, il suffisait que j'ai un moment où j'étais plus en garde, j'appuyais, il y avait Cerebella qui arrivait, qui attrapait le perso de Cénul, blam, 3-6, et quand il repoussait, quand Cerebella reposait le perso après le 3-6, j'envoyais la furie et tout. Donc c'est ça le pour qu'on on va conclure dessus là-dessus, mais en fait, je crois que tout le monde, et je crois que Asenka qui découvrait le jeu pour la première fois et Valentin qui en avait déjà entendu parler mais il n'y avait pas joué encore, Tout le monde en fait a dit mais c'est pas possible, tous les persos du jeu sont pétés. Mais vraiment, tous les persos du jeu sont tous surpétés, genre Miss Fortune. Ah bah on peut envoyer la tête, on peut envoyer le machin, on peut faire ci, Peacock est là du zoning, mais comme c'est pas permis, Cerebella elle fait trop mal quand t'es shop. Enfin, même enfin bref, tous les persos semblent péter, les combinaisons de team semblent péter. Donc heureusement qu'il y a le truc contre les infinis, heureusement qu'il y a le mécanisme contre les imbloquables, c'est 12 frames. Hein. C'est-à-dire que si tu fais un coup bas et qu'ensuite tu fais un coup haut, si c'est dans un intervalle de 12 frames, le coup haut va être gardé. Donc tu peux pas faire d'imbloquable vraiment, tu peux faire que des mix-up. Donc voilà, la conclusion c'est tous les persos semblent péter, tous les persos sont fun à jouer, on s'est vraiment amusé. Tu vois, c'était vraiment fun. Il y a énormément de caméos, mais alors là vous allez vraiment halluciner quand vous allez le voir. Il y a le dernier truc qui nous a fait le plus rire, tu sais, il y a un annonceur dans le jeu qui fait go for broke fight et tout, et ben ils ont vraiment déliré parce qu'ils en ont mis un qui dit this is true love we are making, comme la chanson de CVS2, this is the true love we making, this is the true love we making. Donc ils te lancent ça avant de commencer le match, t'es mort de rire, tu vois. Et ils ont aussi this battle, quand t'as un match mirror, ça fait this battle is all in the might action, tu vois, des trucs comme ça. Et ils ont fait aussi une version, je crois, parodique de this is all we love, this is true love we're making. Ils ont mis genre this is true cheese and bacon ou des conneries comme ça. Enfin, en fait, les mecs, ils délirent, mais complètement avec leur jeu. Ils mettent des tas de blagues partout, le Ryu dans le décor, les personnages qui font n'importe quoi. Il y a un personnage dans un décor, il est composé de boyaux, quoi, tu vois, ça c'est dégueulasse. Donc c'est plein de caméos, c'est plein de trucs super cool, le jeu est vraiment agréable, tu sens que c'est décomplexé, tu sens que les mecs qui le font prennent plaisir à le faire. Donc voilà, je pense que ce sera probablement pour moi le jeu 2D de l'année prochaine, parce qu'il y a tellement de jeux, je vais pas me dire ça va être le jeu de l'année prochaine, mais pour moi ce sera clairement le jeu 2D de l'année prochaine, surtout qu'il va évoluer, je pense, très rapidement après la sortie, c'est-à-dire qu'on va avoir des persos en DLC et des patchs très rapidement après. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire pour paraphraser ma review écrite. Donc voilà, bande de petits vénards, vous n'avez même pas besoin de lire, j'ai tout dit. Donc voilà, sauf si tu avais une autre question, on peut passer à la suite.
Non, c'est bon.
voilà, donc Skullgirl, ça sortira normalement début février. On espère le voir à la World Game Cup. Voilà quoi. Bon, on passe à la suite. Je crois qu'on va faire, on va péter tous les records de longueur de Toasty, parce que bon, c'est exceptionnel, donc on en profite. Alors, revenons d'abord à notre premier sujet auquel on devait parler, c'était les soucis d'équilibrage de Marvel vs Capcom 3, de l'Ultimate Marvel vs Capcom 3.
Oui.
Recontextualisons un petit peu. Ce week-end, il y avait le NEC, donc un tournoi qui a lieu aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et entre autres, on a pu voir donc que c'était le premier tournoi majeur sur Ultimate Marvel vs Capcom 3, parce que jusque-là, on se contentait de vidéos, de découvertes, de streaming, de gens qui s'entraînent, des trucs comme ça. Et oh my fucking god, c'était dégueulasse. C'était horrible.
Disons que la différence, c'est qu'on a vu quelques tournois, on a vu le Big Two, on avait eu le WNF, on a vu quelques trucs, genre le Break Weekly, on avait eu différents trucs, genre les joueurs qui se streamaient, qui passaient les uns chez les autres. Donc on avait pu voir tout un peu n'importe quoi et pas mal de joueurs surtout qui essayaient de donner leur chance à des nouveaux personnages. On a certains qui étaient spécialisés à monter les équipes qu'avec des nouveaux persos. Ouais. Donc l'idée c'est là, ouais, c'est cool, hein, on a l'occasion de voir pas mal de choses. Donc là arrive le premier tournoi.
Et non.
Alors, au début on s'est dit putain, on va voir vraiment des trucs différents avec le tournoi par équipe. Parce que le tournoi par équipe justement a été l'occasion de voir notamment l'équipe des Wheaton Boys. Alors, les Wheaton Boys ont foutu un sacré bordel. D'un côté, quand tu sais les mecs qu'il y avait dedans, ça étonnait personne.
Il y avait quoi comme perso utilisé dans cette
team? Alors il y avait Unknown. Alors Unknown, normalement c'est un mec qui est peu connu. Il a commencé à vraiment se refaire connaître à partir du Season's Beatings, mais c'est un gars, il me semble, qui est connu pour avoir été le premier à découvrir des trucs pétés avec Phoenix dans Vanilla.
Ah d'accord, okay.
C'était lui qui était connu pour ces trucs là parce que je me souviens au départ quand je l'ai sorti Phoenix, tout le monde était là, ah, la cadale de vie, tu lui colles une furie, elle dégage, et jusqu'à ce que tout le monde découvre le, ah mais tiens regarde,
Dark Phoenix Rising,
là tout le monde fait ah,
donc
il s'est arrivé là, tout le monde s'est fait ouais c'est pas possible. Alors lui bah, il avait une équipe notamment avec un Nemesis qui était sacrément balèze, que le mec il a quand même réussi à aussi vivre des équipes, et je crois qu'à un moment il est tombé contre l'équipe de Chris J. Je crois qu'ils avaient en plus leur équipe était marrante, c'était Team Ednan. Alors Ednan c'est un joueur de Dalsim qui trust à next level, et il me semble qu'il y avait Chris J, je crois qu'il y avait Mastasi J, et qui était le dernier. Merde. Bon, c'était un mec de New York aussi, je sais plus qui.
Alors, il y avait quoi comme team, comme personnage différent?
Et donc, bah, l'autre jouait avec Nemesis. Ensuite, donc, dans l'équipe, les Wheaton Boys, c'était intéressant parce qu'il y avait, DJ Ocean, qui ouais, est connu pour sa Felicia et son Skrull. Donc, il a bien foutu, il a bien fait le show. Et il y avait, je crois que c'est Meep, le dernier, qui Meep est un joueur de X23. Il a une X23 qui est complètement fumée.
Oui, elle est géniale, sa machine.
Elle est géniale, hein, ça.
Perso, c'est level 3. C'est...
Pff, et il a fait quelques phases, mais notamment, il a fait un truc où il a bouffé un Wesker à l'entrée. Ça m'a fait rigoler, ça m'a rappelé la fameuse technique qu'il avait utilisée.
Wong contre
Justin Wong contre Tokido Season's Beatings. Il était là, tu sais quoi, tu vas vouloir me la faire avec ton truc gratos, attends devant le snap-in, tu vas comprendre. Et le mec il arrive tag-in, il se mange la level 3, et là pareil le gars il se fait, attends j'ai Wesker qui arrive, j'ai une level 3, je la déclenche, Wesker qui arrive, bim il le pouffe quoi.
Non mais c'était bien. Et donc heureusement il y avait un peu de variété dans le tournoi team, mais alors par contre le tournoi solo c'était juste pas ça quoi. Si on avait bien quelques nouveaux persos, genre Nova, il était là totalement.
Disons qu'en fait le tournoi solo était intéressant pour pas mal de choses. On a quand même vu de la diversité dans le top 16, on a eu de la diversité, enfin entre le top 32 et le top 30 et le top 16, on a eu de la diversité, on a eu des mecs qui sont pas des joueurs de Marvel qui sont arrivés et qui ont fait de très gros résultats. Ça c'est le truc à noter. Déjà il y a Daimignon qui est arrivé, qui maintenant joue à UMVS3 et adore le jeu. Il a une équipe qui est très particulière. Mais c'est un truc là, il m'a pas en finir. C'est tout à fait son jeu quoi. Il joue Beautiful Joe, Morrigan et Doctor Strange, et il te gratte mais à l'infini.
Ah ouais, non mais sa team elle est incroyable.
Il a un jeu dégueulasse mais ça lui colle très très bien. Et c'est vrai que c'est très très, comment dire, il a adapté le jeu. Ce qu'il pouvait pas faire dans Marvel 3, il le fait maintenant. C'est-à-dire qu'il a réussi à adapter le jeu à sa manière de jouer. Et ça fonctionne très bien.
C'est ouais, parce qu'il utilise le boomerang de Beautiful Joe qui peut se charger et tout. Donc résultat, il a des traps boomerang, il a les lights of je sais pas trop quoi avec Doctor Strange où il tape deux fois dans les éclairs et tout. Et comme Beautiful Joe est petit, lui il couvre le bas. Enfin c'est.
Et t'as surtout ça à la Morrigan où il y a des fois quand il a que Morrigan, il déclenche le truc pour qu'elle se dédouble et t'as des Solfis qui parlent partout. T'as le Solfis. Ouais. L'écran est rempli de boules de feu.
Oui, puis il saute, il en met une, il descend, il en met une autre à une autre vitesse. Donc résultat, en fait, l'écran est vraiment blindé dans toutes les directions.
Voilà, donc c'était vraiment cool de le voir jouer. On a surtout eu la grosse révélation de ce tournoi, c'était NYC Fab. NYC Fab, pour dire, ça doit être un des meilleurs joueurs de Tekken des États-Unis. Le mec a terminé second à l'Ivo cette année. Et là, bah, on l'a vu débarquer sur Marvel. Et le mec, il a quand même réussi à se placer, je crois, dans le top 8.
D'accord.
Et le type a quand même éliminé Yipes, il a sorti Clockwork dans le top 16, donc c'est un mec à vraiment prendre au sérieux.
Et alors, par contre, après le top 32 qui était sympa, malheureusement, il y a le top 16 qui est arrivé, et là, c'était Maximum Wesker.
Bah en fait, tu veux
même,
Glenn de Get Your Tournament a fait, a fait des stats. Alors je vous engage à aller sur son site getyourtournament.com ou d'aller sur Fighting Game Stats. Il y a des trucs très intéressants, notamment sur tout ce qui est pourcentage de première touche et tout. tous ces trucs-là, les matchs gagnés, les compositions d'équipe. Et il a fait une comparaison intéressante. Et là, ça va, bon, je vais vous donner le truc, ça va vous faire directement, ça va vous faire comprendre le truc. Si tu veux, top 12 à l'Ivo, il y avait 30 équipes, on a vu 30 équipes différentes passer. Il y en avait 10 avec Phoenix.
Ouais.
Le NEC, top 12, on a vu 32 configurations passer, il y en avait 27 avec Wesker.
Ça veut dire qu'il y a 5 mecs qui n'ont pas pris, il y avait 5 teams seulement
sans Wesker. Mecs, attends, je crois que j'ai les listes, il me semble que le seul mec qui n'avait pas Wesker dans son équipe dans le top 12, c'était DJ Ocean, qui jouait ouais. Felicia, Skrull et Taskmaster.
Ouais, donc voilà, et Taskmaster, pourtant c'est un nom. Donc voilà, on
a. Ah non, attends, j'ai une connerie. Il y en avait un autre, il y avait Clockwork, qui n'a pas joué, ouais, justement, aussi. Qui jouait Doom, Strider et Amaterasu. La plupart des autres, ils ont tous fait passer au moins une fois Wesker.
Ouais. Et bah voilà, donc alors pourquoi hein, on pourrait peut-être expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui jouent pas à Marvel 3 et qui vont être en train. Bah ça va leur donner une occasion de cracher sur le jeu, mais bon, tant pis pour vous, vous loupez un bon jeu. Donc en gros, Wesker, depuis Ultimate Marvel 3, il a un système incorporé avec ses lunettes. Autrement dit, Wesker, quand il a ses lunettes, il est normal. Mais quand il enlève ses lunettes, il est comme le Terminator. Il devient maximum Wesker, on va dire. Donc en gros, il gagne un buff de dégâts et de vitesse, si je me souviens bien. Et il y a deux manières d'enlever les lunettes. Soit on se prend des coups dans le nez et les lunettes se brisent au fur et à mesure, mettant les buffs au fur et à mesure. Soit on fait la furie maximum Wesker, où il se téléporte dans tous les sens, là, parce qu'il enlève les lunettes au début de la furie et il ne les remet pas. Il n'est pas comme Kadash, cet homme, il a tort. Et donc résultat, il suffit de faire une furie. Donc maintenant, bizarrement, les gens la font vachement plus cette furie qu'avant. Et résultat, si vous mettez Wesker à la fin, vous avez un perso totalement autonome parce que qui a des téléportations, qui a le gun, enfin le flingue qui lui permet de couvrir en zoning des angles bien, enfin toute la largeur de l'écran. Et quand il saute, un angle à 45 degrés. Si je me souviens bien, il a des furies qui sont quand même. Il a une furie contre, il a une commande, il a une chope spécial, il a des normaux qui sont quand même super, son launcher c'est un des plus rapides du jeu, et la plupart des gens en fait l'ont mis à la fin, ils arrivaient, ils faisaient une furie, ils étaient en mode Wesker super costaud, et ils activaient le level 3, et en fait on se retrouvait avec un Wesker X-Factor level 4, dont les animations vont tellement vite qu'on dirait du Benny Hill dans Marvel, quoi. Donc voilà, et ça, je crois que ça a un peu dégoûté tout le monde. C'est comme l'époque où Tokido arrivait avec sa team, tu sais, avec sa team Wolverine, Sentinel, Phoenix, où tout le monde râlait sur Phoenix et sur Wolverine. Malheureusement, Wesker, je crois qu'on va le voir encore plus que Phoenix.
Ah, mais Wesker, Stéphane, parce que notamment contre qui Ocean s'est fait éliminer. Alors attends.
J'ai pas vu tout le tournoi.
Je crois qu'il s'est fait sortir par Oh My God It's André. Ouais, c'est ça. Où il y a eu les mecs étaient tellement fatigués qu'au bout d'un moment ils plantaient tous leurs combos. C'était assez dingue. Et t'avais à chaque fois Skisonic qui gueulait. Mais pourquoi vous loupez vos combos, les types? Ah, putain, j'en peux plus.
Laissez-moi dormir.
Et les mecs, je veux dire, Ocean, à chaque fois, dès qu'il éclatait le Wesker de André, t'avais les gars dans la salle qui étaient tous en train de hurler. Les mecs, ils étaient là, ouais, vas-y, explose-lui la gueule, vas-y.
De toute façon, quelle que soit l'équipe qui jouait, en fait, dès qu'il y avait un moment où il fallait exploser la gueule de Wesker, tout le monde était derrière.
Le truc, c'est qu'on s'est vite retrouvé comme ça avec des matchs où les mecs étaient dégoûtés. Et c'est vrai qu'il y a un passage, à un moment, c'était juste après que DJ Ocean soit fait éliminer, je sais plus dans quel match. Il y a un passage où on a eu une remontée incroyable où le mec il arrive, Wesker, le mec rentre, il arrive, une frappe, un mort, une frappe, un mort. Et le type il a remonté les mecs à chaque fois. Première touche sur le perso qui rentrait et le type il a remonté tout le truc comme ça. Et on a vu, il y a eu un passage de zoom avec la vidéo, on a vu DJ Ocean qui était derrière dans la foule, il avait une tête, il était dépité et je crois que ça résumait.
Très bien, le problème, la
pensée générale. Les mecs, ils étaient là, mais putain, mais c'est quoi ce truc? Donc les gens gueulaient avec Phoenix. Phoenix, certes, c'était chiant, c'était là, il m'a pas en finir. Le truc, c'est que t'avais encore un minimum de chance si t'arrivais à le faire. Alors certes, c'était pas forcément super simple, mais t'avais une chance de pouvoir la faire rentrer. Et si le mec arrivait pas à gérer le mix-up, tu l'explosais.
Tu l'as tué en un combo et fallait qu'elle ait 5 barres pour y arriver. Donc dans tous les cas, voilà.
Et le truc, même si elle avait 5 barres, c'était chiant, mais il y avait des mecs qui arrivaient à la gérer. C'était dur, c'était très 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 difficile, mais il y a des gens qui arrivaient à la gérer. Là, le truc, c'est que Wesker, t'as beau le tag-in, t'en as rien à foutre. Wesker, c'est le même du début à la fin. C'est vraiment le même perso. Hein.
Voilà, donc en gros, vous pouvez faire entrer Wesker dès le début, ça changera rien, il a toujours autant de vie. Et je crois que la plupart des gens, en fait, ont résumé le truc en disant, mais ok, avant il y avait Phoenix, mais au moins Phoenix, il y avait un petit peu d'intérêt dans le truc, dans le sens où tu pouvais la faire rentrer, comme on disait, tu pouvais essayer de résister, tu pouvais te battre un petit peu contre la gratte ou ce genre de choses. Et puis surtout, Phoenix, elle n'était pas aussi autonome en termes de combo et de mix-up que Wesker, parce que Wesker, quand même, il fait un... combo, le mec il OTG tout seul, le mec, le perso, il OTG tout seul, donc il peut te relever quand t'es au sol, il a sa shop spé, il a ses machins, enfin il a tout en fait, le personnage, il a aucun défaut ou presque.
Et le truc, c'est ça, c'est que tu te poses une question, tu fais mais Wesker c'était quand même un des meilleurs persos de Vanilla. C'était ouais. Probablement un des meilleurs persos avec Wolverine, ça on le sait clairement. Alors Wolverine a été nerfé, Wolverine reste toujours un très bon perso.
Oui, on l'a vu ce week-end.
On l'a vu, je veux dire, Noël Brown est toujours resté sur ce perso, il l'aime, et bon, bah voilà. Pierre Rock joue aussi Wolverine. Wolverine, bon, bah, t'as un perso qui, ben, il reste encore solide, hein, le perso est différent, mais il reste solide. Et Wesker, qui était quand même un des persos les plus solides du jeu, se retrouve à être buffé, tu te demandes ce qui est passé à part des mecs de Capcom, c'est-à-dire que le perso était balèze déjà, on l'avait déjà vu faire certains trucs. Et là, maintenant, tu te fais, bon, bah ok, le perso, en fait, à lui tout seul, il peut te remonter une équipe, quoi qu'il arrive, quoi.
Le truc en fait, c'est que ouais, avant on va dire il était fort, mais ça allait encore. Maintenant en fait, c'est le mec que tu mets à la fin, et s'il y a un souci, c'est pas grave, il est là quoi. Donc bon,
c'est un peu ça. T'as le dire, c'est autant quand t'avais Phoenix, le fait était de te dire que bon, bah t'avais quand même à tenir 5 barres. Et 5 barres, il y a des fois, tu pouvais te faire pile la gueule sans que t'aies les 5 barres. On a vu des matchs comme ça où le type arrivait à avoir un happy birthday dès le départ, où il arrivait à rentrer dans la gueule des mecs. Il arrivait de bousiller Phoenix dans l'ordre. Il éclatait les persos dans l'ordre sans que le Phoenix ait réussi à arriver à 5 barres. C'est des trucs qui arrivaient, ça. C'était pas tout le temps, mais c'est arrivé. Avec Wesker, c'est pas le cas. Et il y a un truc aussi qui est différent, c'est que quand t'avais Phoenix, t'avais le droit à certains moments de bravoure. Je me souviens encore de Damian qui avait, quand je sais plus contre quel joueur de Phoenix, il avait foncé. Et le type, il était là, tu sais quoi, Dark Phoenix en face, j'en ai rien à foutre, je la rush. Et le mec, il est parti avec son denté, il l'a rushé, quoi. On était là, mais c'est pas possible. Et c'est des trucs qu'on risque de plus trop voir avec Wesker. Alors, qu'il y aura un patch, je pense que le perso va être nerfé un petit peu. Alors qu'on rentre pas dans un truc stupide avec ce qui s'est passé avec Sentinel, ça serait bien. Histoire que les mecs pondent un peu, genre il diminue un peu les dégâts de ses trucs et certaines priorités sur certains de ses coups, pourquoi pas.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils arrêtent surtout le. Tu sais, en fait, c'est Wesker, pour ceux qui connaissent pas le jeu, quand on appuie sur les deux boutons d'assist en même temps, on déclenche une furie qui compose tout, qui est avec tous les personnages du jeu tant qu'il y a de la barre. Et en fait, Wesker ne peut pas canceller son espèce de coup qui lui sert à relever un personnage au sol, sauf par cette furie en fait qui comprend tous les personnages.
Disons que c'est la deuxième fois, c'est-à-dire quand il fait le TJ, il peut faire soit un truc, soit il a l'assist qui passe, mais s'il vient à faire une deuxième fois, il ne peut en fait que passer la team assist.
Voilà, sauf que comme beaucoup de gens jouent avec Wesker maintenant à la fin, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul personnage, et ben ça marche tout seul avec Wesker, donc en fait Wesker peut finalement canceller tout ce qu'il veut par ses propres furies, vu que tout le monde le joue à la fin. Donc rien que ça, c'est débile, tu vois. Enfin, tu regardes ça, tu te dis, mais le perso il fait ce qu'il veut, quoi. C'est pas grave. Enfin, il a même plus besoin de. Le perso il peut OTG deux fois. Tu te rends compte un peu? C'est. Bon, bref. Bon, donc voilà, donc on espère un patch bientôt. C'était petit. Je sais pas si ça vous intéressait beaucoup, vous, auditeurs, qui jouez peut-être pas à Marvel, mais bon, on tenait à vous mettre au courant si jamais vous commencez à jouer un peu Marvel ou vous regardez des tournois. Donc on espère un patch, espérons.
Voilà. Il y aura des modifs, hein, comme il a dit. Les mecs de Capcom ont l'air de bosser là-dessus. Le seul truc qu'il faudrait espérer, c'est un, qu'on ait les informations sur tous les changements. Ça sera bien déjà ça. Et secondo, qui rentre pas dans les stupidités pas possibles à se dire, tu sais. Là je suis curieux de voir maintenant là, sur les forums, je suis pas allé voir le nombre de gens qui doivent être en train de hurler par rapport à Wesker. Truc qui arrive à chaque tournoi. Et la question, c'est ça, c'est de se dire, bon, ben oui, non, on verra bien.
Donc, on fait quoi là? Parce que ça fait une heure de podcast qu'on fait. Est-ce qu'on parle quand même de la scène américaine et de l'e-sport rapidement pour expliquer le petit débat?
On va en parler vite fait.
Alors très vite, s'il te plaît, comme ça après on termine. Donc en gros...
Il y a eu un drame, c'était quoi? Bon, c'est pas récent, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a toujours eu quelques soucis entre la scène baston et les autres scènes. Et le truc, c'est que... À la DreamHack, il s'est passé il y a quoi, il y a deux semaines, Il y a eu, si tu veux, les matchs de Street Fighter 4 passés entre les matchs de StarCraft 2, ou l'inverse. Ouais. Et que ça soit d'un côté comme de l'autre, les Street Monsters l'ont assez mal pris. Les mecs étaient là, tu sais quoi, j'ai envie de voir du StarCraft, j'ai pas envie de voir du Street Fighter 4. Il y en a aussi à côté qui étaient là, ouais, sur Street 4, j'ai pas envie de voir du StarCraft. Alors il y avait des arguments qui étaient intéressants des deux côtés, je veux dire, notamment le fait que les gens étaient là, ah, mais attendez, vous voulez faire partie de l'e-sport et vous respectez rien. StarCraft, je veux dire, c'est quand même le monument, tout le monde joue, c'est un des piliers actuellement de la scène et vous pouvez pas le balancer. Mmh. Et il y avait une comparaison qui avait été faite par Jared où il disait effectivement, mais le truc que vous prenez pas en compte, c'est que même à travers notre scène, suffit de voir à quel point les stream monsters en mettent plein la gueule à Mortal Kombat à chaque fois que ça passe dans un tournoi majeur où les mecs sont là, ah mais attendez, ce jeu il est encore là, ce jeu il est pas encore mort, ouais c'est pas Street Fighter, c'est de la merde. Et là tu fais bon, bah, ok, merci les gars d'être passés. Donc t'as eu ce truc là. Et alors, et l'autre truc qui est passé, qui a fait, alors là ça a été le bordel, on a eu même des mecs qui ont répondu via article interposé sur Shuriken, c'est que un des commentateurs de la DreamHack à la fin a dit, c'était quoi, c'est il a qualifié les joueurs. Alors on avait des, qui c'est qu'on avait qui s'était déplacé, on avait Reinhardt, on avait Conkster, on avait Infiltration, il y avait d'autres mecs, alors j'ai plus les noms parce que j'ai pas regardé en totalité le truc, je pourrais pas vous dire. Et à la fin il a parlé de Button Mashing Heroes.
Button Mashing Heroes.
Pour les qualifier, les mecs, ils l'ont super mal pris. Ils étaient là, non mais attendez, on n'est pas à vous traiter justement de bourreur de boutons quand vous jouez des FPS ou de cliqueur fou avec vos souris. Et nous appelez pas comme ça. Et les gars, donc on a eu un ou des éditos qui ont été créés là-dessus sur Shuriken. Les mecs sont un peu enflammés. Il y a eu des réponses interposées. Ensuite, il y a eu un truc. Alors, il y a eu une émission e-sport, ça s'appelle. Alors, je sais plus le nom, c'est un truc où il y a. Il y a DJ Witch, il y a Slasher, et comment s'appelle l'autre, c'est Sir Scoots. Et il y a un passage en fait où Sir Scoots s'est vraiment flammé à la fin, et le truc a marqué tout le monde, où il a fait, vous savez quoi, de toute façon, là, l'image que vous en avez donnée, en gros, vous voulez bien vous montrer que les joueurs de jeux de baston, vous voulez pas faire partie de la scène e-sport, et ben, vous savez quoi, ce que vous avez vu à la DreamHack, ça sera peut-être sûrement une des dernières choses que vous verrez de l'e-sport, vous voulez pas en faire partie, c'est votre problème, vous avez qu'à vous barrer. C'est un peu comme ça qu'il l'a présenté. Alors, les mecs étaient là, waouh, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça a commencé donc à un peu dégénérer. Résultat, ouais. on a Inkblood qui est un des fondateurs de Shuriken et un des fondateurs de Livo qui a répondu en expliquant qu'actuellement il y a aussi un truc, c'est que les expériences passées des jeux de combat dans les ligues d'e-sport n'ont pas forcément aidé au fait que les vétérans notamment veuillent s'investir, parce qu'il faut quand même dire que un truc qui fait quand même chier pas mal de gens, c'est qu'à chaque fois on n'arrête pas de nous dire, ah ouais mais vous savez, ouais. Street Fighter 4 a tout réveillé et tout ça, scène compétitive, il n'y avait plus rien avant ça. Faut quand même vous rappeler que avant Street Fighter 4, les seuls jeux qui ont incorporé ce genre de ligue étaient des jeux de baston 3D ou étaient Smash Bros, c'est-à-dire que les jeux qui ont été dans les différentes ligues américaines, c'était Tekken, c'était Virtua Fighter, c'était Dead or Alive et c'était Smash Bros.
Voilà, donc ça vous donne une idée de... C'est pas toujours très malin comme jeu.
Ça vous donne une idée. Alors il y a des jeux qui ont été virés, d'autres qui sont restés. Actuellement, Tekken 6 est encore à la World Cyber Game. Il a été viré de la MLG. Virtua Fighter a dégagé il y a quelques temps. On a eu l'expérience dramatique avec Dead or Alive. Comment elle s'appelait cette ligue? C'était quoi? C'était la... ligue où en fait on a eu les premiers joueurs de baston professionnels.
Ça, et ces mecs
se sont retrouvés au bout de quelques mois avec la ligue qui fout carrément la clé sous la porte parce qu'ils ont des problèmes de sponsoring et de financement. Et on a certains joueurs, notamment comme des mecs comme Master, comme il y avait Master, Vanessa, Spoozy, comment ils s'appelaient les autres top players de Dead or Alive à l'époque. Et tous ces mecs-là, tous ces joueurs-là en fait se sont retrouvés du jour au lendemain à repartir à leur vie de base. Alors si ça vous intéresse ce sujet-là, vous pouvez retrouver un article sur justement le retour au quotidien de Master sur le New York Times. Il y a eu un article il y a quelques années qui avait été écrit là-dessus avec justement Master qui expliquait qu'il était passé de son job à être une espèce de star internationale de Dead or Alive, à être payé, à avoir vraiment un salaire de malade. Et le mec, il est revenu à refaire son job dans un supermarché.
Ouais, tu le vois en photo, c'est assez triste. Hein. Le mec, il est en photo en train de pousser son caddie pour refaire les stocks du supermarché. Enfin,
Et c'était la dégringolade. Et les mecs, t'imagines qu'après ça, les gars, ils étaient pas chauds à se dire, non mais...
Intégrer l'e-sport, on va se mettre avec les ligues existantes.
Et c'est pour ça que c'est un terme en plus au travers de la scène baston, qui fait, notamment chez les anglophones, qui fait débat. C'est-à-dire que tous veulent parler d'e-sport et les mecs à chaque fois sont là, ouais, e-sport mes couilles, quoi. Ils sont là, pas vraiment. C'est pour ça qu'on a ces trucs avec competitive gaming, pro gaming, t'as quoi, cyber athlete, ces trucs comme ça où les mecs veulent vraiment avoir un truc et pas forcément se dire c'est du sport, mais c'est plus une pratique peut-être professionnelle ou au niveau du jeu vidéo.
Ouais, moi je suis plutôt de cet avis-là aussi, personnellement.
Donc, ils sont sur cette question, et les gens sont là, ouais, ça pose le souci de se dire comment est-ce qu'on rentre dedans. Alors donc on a eu ce fameux truc avec Kingblood qui a fait un article qui est intéressant, c'est-à-dire si vous connaissez pas le passif, surtout pour les gens qui sont arrivés en 2009, je vous engage à le lire parce que c'est un...
Faut bien vous dire que Street Fighter 4 est arrivé en 2008 en arcade et qu'en 2009 sur console et que ça a vraiment démarré en 2009. Dites-vous bien qu'en 2008 aussi, c'était l'année où les joueurs de Dead or Alive pointaient au chômage. Enfin, pour vous donner une idée, quoi. C'est vraiment un truc... au moment où Street 4 sortait, où c'était l'euphorie, en fait, pour beaucoup de gens, c'était la misère en même temps. Donc actuellement, on en parlait aussi avec cette Kylian, avec Zach, il faudrait qu'on en refasse un podcast à ce sujet. Mais cette Kylian, quand on l'a croisée à la Gamescom, il nous disait clairement, il faut que les scènes compétitives de baston appartiennent aux joueurs. En fait, selon lui, il faut surtout pas que ça se passe en ligue, que ce soit sponsorisé même par Capcom ou autre, parce que il y aura trop de règles contraignantes et du jour au lendemain ça peut s'arrêter en fait. Et je crois que c'est un peu ça en ce moment dont ont peur les joueurs de jeux de baston aux États-Unis, c'est que certes il y a du sponsoring pour les joueurs et tout, mais de là à rejoindre une ligue,
c'est pas après forcément qu'une ligue, mais c'est rejoindre des gros événements. Il y a des événements actuellement des événements qui marchent très bien, qui ont essayé d'allier tous les jeux. Je prends pour exemple, tous les ans il y a le Devastation. Le Devastation, c'est l'exemple même où les mecs en fait n'ont pas que de la baston. Ils ont des concours de tout ce qui est jeux musicaux. Ils ont des concours de FPS et de third person shooter. Il y a plein de trucs comme ça. Et après, on a bien vu que ça cohabite. Le seul souci maintenant, c'est qu'actuellement les jeux qui font vraiment ce qu'on appelle l'e-sport, c'est les MOBA, c'est StarCraft et c'est certains FPS. Et ces trucs là, donc eux par contre sont en ligue. Et ce qui les emmerde tous, c'est pour ça que je vous dis, donc essayez de lire ce truc, du moins pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait la scène avant, si vous êtes fraîchement débarqué dans le milieu.
Si vous écoutez le podcast sur le site actuellement, l'article est juste au-dessus ou en dessous, donc je vais vous le linker sans souci pour que vous le trouviez.
Et donc il a remis en avant tous ces événements. Il a fait on a eu ça, donc. Il faut bien vous imaginer que forcément, surtout les vieux de la vieille, ils ne sont pas forcément très enclins à se dire, vous savez quoi, on y retourne une nouvelle fois.
Et donc, je crois que la pire situation qui est décrite dans l'article, c'est le moment où ils ont fait l'Evo en collaboration avec je ne sais plus quelle ligue ou je ne sais plus quel machin. Et au final, ils se sont retrouvés avec un espace tellement réduit pour... c'était l'Evo 2005 peut-être, je ne me rappelle plus. Où en gros, ils ont fait un partenariat avec une ligue et la ligue leur a laissé en fait un quart de la place qu'ils avaient dans la salle, alors qu'il y avait trois fois plus de joueurs de jeux de baston que de joueurs d'autres jeux, et que donc ça les phases finales de StarCraft ou je sais plus trop quoi se sont faites siffler par les joueurs de jeux de baston, enfin des trucs, enfin il y a vraiment des tas d'histoires comme ça de partenariats qui ont super mal tourné, donc voilà, on l'a déjà dit, on vous encourage à le lire, c'est lisible sur le site de la news de Tosti, je vous ai mis le lien.
On vous linkera les trucs à voir ou à lire à ce sujet, histoire que vous ayez un récap de l'histoire, parce qu'on peut pas tout faire, il faut que vous fassiez. Et donc la suite, alors ça par contre je n'ai pas pu le voir, c'est Ski Sonic, justement, qui était l'invité de l'émission, je crois que c'est Fox Slasher, hier. Et justement, il y a eu toute une interview là-dessus où ils en ont parlé. Et il y a quelques solutions plus ou moins qui étaient, abordées. Donc à voir, c'est-à-dire que, enfin, on sait clairement que maintenant, un moment ou un autre, la question va vraiment se poser. Il va falloir savoir où est-ce qu'on positionne, parce que du moins pour les joueurs et pour les communautés actuelles, mais surtout de l'autre côté pour tout ce qui est annonceurs et ligues, parce que les mecs se sont bien rendus compte, notamment avec le dernier Evo, qu'au niveau tout ce qui est audience. Ce genre de tournoi, il va brasser énormément de monde, et on l'a vu, mais enfin suffit de voir le nombre de gens qui se connectent toutes les semaines juste pour regarder le WNF. C'est un rendez-vous toutes les semaines, et les mecs ils arrivent à avoir plusieurs milliers de personnes qui regardent le truc. Et ça brasse du monde, ça intéresse, et c'est un pan c'est un pan compétitif qui n'est pas pris en compte actuellement. Alors peut-être que maintenant ils vont faire un test avec les jeux qui arrivent à foison, ils vont peut-être se dire pourquoi pas maintenant mettre d'autres jeux 2D. Et là, c'est là où la question était intéressante, c'est par rapport, on en parlait la dernière fois avec le sondage de la WCG, où les mecs étaient là, ok, choisissez votre jeu. Il y avait un paquet de jeux qui étaient prévus dedans. On avait du Marvel, on avait du Tekken Tag Tournament 2, on avait du Street Fighter Cross Tekken. Peut-être qu'on en arrivait là, où les mecs vont vraiment se dire, on ne laisse pas la communauté baston en elle-même de côté. mais on va vous intégrer dedans et vous allez nous aider à faire les choix.
Voilà.
Parce que ça change radicalement des trucs. Hein. Je veux dire, pour vous donner un exemple, si vous connaissez Rip, le joueur de Tekken 6 qui s'occupe de Level Up Your Game, bah, ce mec-là, il fut commentateur officiel, je crois, à la MLG. Mmh. Et c'est des mecs comme ça qui sont passés d'un statut où à être, ils étaient plus ou moins ben, exactement ce qu'on voit avec les mecs de StarCraft. C'était des consultants, ces trucs comme ça. Et les gars, ben, ils sont retournés à leur vie de tous les jours, comme ça, subitement. Parce que ces secteurs-là ont dégagé.
Ouais. Bref, donc voilà, vous savez tout à peu près. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'e-sport, la scène américaine, etc. dans un nouveau rendez-vous qu'on va essayer de vous faire bientôt. Donc on termine avec les tournois de la semaine. Ouais. Désolé, hein, c'était très long aujourd'hui. On est déjà à 1h10 de podcast. Ouais. On a cassé les 45 minutes prévues à la base. Hein. Donc allez, je vous le fais très rapidement. Pour ceux que ça intéresse, le Stunfest pose ses dates pour 2012. Ça aura lieu du 13 au 15. Merde, j'ai pas marqué le mois. Je crois que c'est du 13 au 15 avril.
C'est avril. Avril,
ouais. Avril, du 13 au 15 avril. Donc assez tôt cette année. La prochaine KNE session aura lieu le dimanche 18 décembre. Les préinscriptions ont lieu sur le site de KNE dans les commentaires de l'article. Alors attention, ce jour-là, il y aura du tournoi AE 2012, il y aura du tournoi Ultimate Marvel 3, un tournoi sur KOF 13, et il y aura Skullgirls en démonstration, grâce à votre serviteur qui a fait le lien, et oui, Skullgirls everywhere, bitches.
Et qu'on vous engage à les tester.
Ouais, si vous êtes là-bas, franchement, n'hésitez pas à tester le jeu, c'est vraiment sympa, quoi. Vous aurez en plus sans doute une version plus avancée que nous. Et alors, méfiez-vous, apparemment, Kayane a fait s'est associé à un sponsor qui deal de la guarana, donc si Kayane vous propose des petites pilules rouges pendant la session, méfiez-vous.
Mais oui, effectivement, ils auront peut-être même une version qui est très proche de la version finale, parce qu'ils auront à un jour près la Kayane session, elle se passe pendant le SoCal Regionals.
Exactement, c'est pour ça que je disais ça. Et enfin, dernier petit tournoi, il y a Tritri que je salue très fortement parce que c'est un mec cool, Tritri. Donc Tritri, tu organises apparemment le Strasbourg Ring Out Night Impact Ranking Super Street Fighter 4 Arcade Edition. J'ai loupé le 4, je suis désolé. Et il est minuit 10 là. Bref, donc ce sera donc à Strasbourg, il y aura un ranking Super Street Fighter 4 Arcade Edition, ça se passe le 10 décembre. En free play, il y aura du Super Street Fighter 4, du KOF 13, du 3-3, du HDR, du BlazBlue CS2, du Tekken 6, du Soul 4, du Arcaner 3. Bref, c'est la fête à Strasbourg, donc profitez-en si vous êtes dans le Grand Est et que vous n'avez pas peur de vous rapprocher des lignes allemandes. Donc, putain, qu'est-ce que c'était que ça? Bref, donc voilà, c'est tout pour cette semaine.
Maisons en bois.
Ouais, les maisons en bois, peintes en bleu, en rose et tout, en haut des montagnes. C'est super bizarre, l'Alsace, je suis allé qu'une fois. Wow. Bref, moi, j'ai fait l'Alsace en combi Volkswagen de hippie, les mecs, hein, quand j'avais 10 ans, vous pouvez pas tester. Bref, je sais tout de l'Alsace. D'ailleurs, c'est horrible le camping en Alsace en altitude, tes draps sont souvent très humides avant même que t'ailles te couper. Bah, bon, ça n'a rien à voir. Donc on vous laisse, désolé pour la longueur de ce toasty, mais comme vous l'avez entendu, bon, on a pris quelques libertés par rapport à l'actualité, et comme la semaine prochaine on aura d'autres trucs à vous parler, et ben voilà, donc désolé pour la longueur, on espère que malgré tout ça vous a plu, j'espère que c'était la première et la dernière fois qu'on fait ça, en tout cas la semaine prochaine et les semaines à venir on ne recommencera pas, c'est promis. On vous dit à la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés, bisous à Tal, et puis bisous à vos filles, tout ça, comme ça quoi. Allez, salut les gens.
Salut.